Nous sommes en 1904, après Athènes et Paris, la troisième Olympiade a lieu aux États-Unis. Un pays qui a participé activement aux deux premières éditions, avec de nombreuses victoires. Des JO en Amérique, c'est a priori une excellente nouvelle pour le mouvement olympique. Et pourtant, il faudra déchanter. A priori, si je vous demande quelle ville des États-Unis pourrait accueillir les Jeux, vous allez sans doute me dire New York, ou alors San Francisco, ou bien encore Chicago. Voilà des destinations prestigieuses toutes prédestinées. Chicago fêtait d'ailleurs son centenaire en 1904. La ville est candidate, tout s'annonce bien. Sauf qu'une autre ville américaine montre les dents. Elle organise une expo universelle pour célébrer un autre centenaire, celui de la vente aux États-Unis par Napoléon en 1803 de ce qu'on appelait alors la Louisiane, un immense territoire du Midwest américain. Et la ville qui accueille cette expo universelle et qui réussit à rafler les Jeux Olympiques à Chicago, c'est Saint-Louis, au bord du Missouri. Autrement dit, en 1904, on va répéter le scénario de Paris en 1900, noyer les épreuves sportives des Jeux Olympiques dans le cadre d'une expo universelle. Et tout ça dans une ville qui est loin de jouir du même prestige que la capitale française. Saint-Louis est une ville qui a connu au cours du XXe siècle un profond déclin. En ce XXIe siècle, elle est une des villes au plus haut taux de criminalité du pays, ce qui est tristement remarquable pour une ville de taille moyenne. Niveau population, Saint-Louis est seulement 19e à l'échelle des États-Unis. Mais attention, en 1904, elle était la quatrième ville la plus peuplée des États-Unis. Ce n'est donc pas pour rien qu'elle a réussi, à l'époque, à damer le pion à Chicago. Le grand organisateur de l'Expo universelle de Saint-Louis, James Edward Sullivan, est confiant et ambitieux. Il promet par écrit à Pierre de Coubertin « le plus splendide ensemble d'exploits sportifs que le monde ait jamais vu ». Et pourtant, Saint-Louis va d'emblée se trouver confronté à un énorme problème. L'absence d'une réelle participation internationale. Ces Jeux Olympiques ressemblent furieusement à des Jeux américains. Jugez plutôt. Sur les 650 athlètes recensés, 523 viennent des États-Unis. 80%. La deuxième nation représentée, c'est le Canada. Bref, la participation européenne à ces Jeux de Saint-Louis est très symbolique. 17 Allemands, 14 Grecs, 3 Britanniques, 1 Français et 1 Italien, et encore, ces deux-là vivent aux États-Unis. Comment l'expliquer ? Il y a d'abord le contexte international compliqué, dominé par la guerre russo-japonaise. Il y a ensuite le coût du voyage. Et enfin, le peu de motivation des athlètes européens qui devraient entreprendre un long voyage pour se confronter à des sportifs américains surentraînés. À quoi bon ? Pierre de Coubertin disait que l'important c'est de participer. Or lui-même, qui vit mal la rivalité avec les organisateurs américains, s'abstient de faire le voyage. Les Américains sont amèrement déçus. Ils étaient venus en masse à Athènes et à Paris. Ils espéraient une réciprocité. Deuxième souci de ces JO de 1904, la fameuse épreuve mythique du marathon tourne au fiasco. Temps du vainqueur, 3h, 28 minutes, 53 secondes, soit le plus long de l'histoire du marathon. La raison ? Un départ donné à 15h, au mois d'août, par 32 degrés et 90% de taux d'humidité, 7 collines à gravir, la fin du parcours en plein trafic urbain et seulement 2 ravitaillements en eau au kilomètre 10 et 20, plus rien. Et le pire, c'est que ce n'est pas de la négligence, c'est la volonté des organisateurs qui voulaient tester les effets de la déshydratation sur le corps humain. Plusieurs participants frôlent la mort à force de manger littéralement des kilos de poussière. Ajoutez-y que le vainqueur avouera avoir pris de la strychnine, le dopage déjà, et que la course a bien failli couronner un sacré tricheur. Un maçon new-yorkais, Fred Lortz, s'est présenté le premier dans le stade, sous les vivats de la foule. Mais il avait parcouru la moitié de la course en voiture. Bref, ce marathon de Saint-Louis ne restera pas dans l'histoire pour son esprit sportif. Mais il y avait encore pire dans ces Jeux de Saint-Louis. Le véritable scandale fut l'organisation des Jeux anthropologiques. Entendez par là, réservés à ce qu'on appelait les primitifs, qui proviennent des zoos humains très en vogue à l'époque. Des zoos, des villages primitifs qui ne sont pas réservés à l'Amérique, on les trouve en Europe dans des expos coloniales, mais la démarche de ces Jeux de 1904 réservés à ces primitifs va plus loin. Il s'agit en quelque sorte de prouver que les capacités athlétiques des Sioux, des Zoulous ou des Patagoniens sont inférieures à celles des Blancs. De briser le mythe selon lequel les bons sauvages vivant dans la nature seraient des athlètes nés, habiles naturellement à la course, au lancer ou à l'endurance. Au nom de la science, les organisateurs vont obliger des hommes de couleur peu motivés et pas entraînés à courir le 100 mètres, à tirer à l'arc ou à lancer le javelot. Les performances sont évidemment médiocres et ne soutiennent pas la comparaison avec celle des hommes blancs. CQFD, la supériorité de l'homme blanc est évidente, comme le dira un anthropologue américain, je le cite, « L'homme blanc dirige les races du monde tant physiquement que moralement. » La nation américaine justifie ainsi la ségrégation qui fera encore longtemps partie de la culture du sud des États-Unis. En dehors de ce scandale, les Jeux de Saint-Louis révèlent aussi la place particulière du sport dans la construction du mythe américain. Le sport qui devient symbole de réussite et qui contribue déjà au culte du corps. 4 ans plus tard, c'est fort de cet esprit de supériorité que les athlètes américains participeront aux Jeux de Londres, en se heurtant à une sacrée rivalité avec les Britanniques.